Le Devoir nous appelle et nous avons bien sûr répondu à ce devoir. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Nous savons que vous avez répondu aussi à ce devoir républicain. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce premier jour, bien sûr, à l'heure de la semaine du travail. Alors, nous sommes au lundi 22 juillet 2024 et il sonne 11h. Sur votre radio, quand il sonne 11h, vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. L'émission démarre ainsi à la technique, c'est Michel Vitokbe Tomega. Je suis Pascal Lossou au micro. Zéro d'Akucha sur la mise en ligne. Pour ce premier numéro de l'émission pour le compte à l'heure de cette semaine, nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout à l'heure au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir YouTube et Facebook et autres applications bien sûr, et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi et vous comprenez que l'équipe de lundi est déjà en place avec Uriel Enyang. Uriel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour à tous les Togolais. Très bonne semaine.
Très bonne semaine. Jacques Dacouti aussi est là. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Salutations fraternelles à tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement. Et sûrement ceux qui sont au bureau, ceux qui sont dans leurs ateliers, ceux qui sont dans leur taxi, ceux qui sont malades, leur souhaitons une prompte guérison. Ceux qui ont perdu également des êtres chers au cours du week-end, de la semaine, les condoléances les plus attristées.
Jacques, vous savez bien le faire en faisant un clin d'œil à ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux en nous suivant et aussi ceux qui ont perdu leur être cher, bien sûr. J'en discutais avec Uriel au micro tout de suite. C'est comme si aujourd'hui on est en train alors de retrouver quand même assez de morts parce que, allez, on sait que déjà la semaine dernière, nous en parlions même d'ailleurs en studio avec la mort alors du ou le décès alors du maire de Golf 2, docteur Diem Samaglo. Et en fin de semaine, c'est plutôt un autre maire qui décède, c'est le maire de Kloto 3. Je vais bien nommer monsieur Amouakou Kossi Maouli. Et aussi, ce matin déjà, nous l'avons appris, le décès alors du colonel Akobi Messan, qui est le secrétaire général alors du ministère de la Sécurité. Alors, Uriel, finalement, justement, il y a trop de morts là.
Pascal, il y a trop de morts. Trop de morts, même si c'était un seul Togolais qui nous quittait. Ça en serait de trop parce qu'on aurait besoin de la personne. Là, franchement, il faut dire beaucoup de courage à toutes les familles directement éplorées, et à tous les corps de métiers qui ont été touchés par ces différents décès. Et c'est vrai qu'en énumérant la liste, beaucoup de décès ont échappé.
Tout à fait.
Le maire qui est décédé dans le Grand Nord, je pense, à Kpendial, par accident. Et il y a aussi un décès dans les plateaux, le major
Koulum. Le major Koulum, bien sûr.
Il y a aussi le colonel Arokoum qui est décédé à Kara. Donc, vous savez, la liste est longue. Ce n'est pas notre rôle de le dire. Mais, étant donné que c'est de grands responsables qui étaient à la gestion du pays, nous compatissons. Nous souhaitons présenter nos condoléances aux familles. Et beaucoup de courage, vraiment, parce que c'est pas facile quand vous perdez un être si cher que cela. Et que Dieu veille sur les vivants pour que nous puissions continuer valablement la mission pour laquelle nous existons actuellement. Les médecins, les pasteurs, les prêtres, ils nous donneront tous des conseils pour maintenir notre santé au moins durable. pour qu'au moins nous puissions rendre service à la société à laquelle nous appartenons. C'est très important. Une fois encore, condoléances à toutes les familles.
Justement, d'accord. Ouais. Merci beaucoup, Uri Lenyang. Jacques, finalement, justement, nous allons présenter nos condoléances. Mais toutefois, ces décès pourront également nous inquiéter, nous qui sommes alors des vivants.
Justement, vous savez, Pascal, je me rappelle la semaine passée, on parlait dans ce studio de tout faire pour, ne serait-ce qu'une fois, faire le bilan de santé. Par rapport à ce que nous sommes et les êtres humains sur cette terre. Vous savez, vous avez énuméré les décès. Il y a également eu des décès dans ce week-end chez nous avec les militaires qui ont été également fauchés par ces terroristes. Et ça fait vraiment mal. Et puis, on apprenait également le décès du colonel Akobi qui était en mission également à Dapaon. Voilà, donc, tout à l'heure, Uriel parlait d'autres. Pour lui, je n'ai pas appris, le colonel qui est décédé à Kara, lui, je n'avais
ça
pas.
Ça fait deux semaines.
Deux semaines, ah, d'accord, oui. Et le major également, Kouloum, et ce maire dont vous venez de citer. Ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup, Pascal. Et nous voulons vraiment souhaiter les condoléances les plus attristées. Présenter les condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Vous savez, pour vous, Pascal, et le pasteur Didier, nous ne pourrons pas me démentir. Peut-être Uriel aussi, parce que je ne connais pas l'audience
je suis catholique.
Ah, d'accord. OK. D'accord. Vous savez que pour nous qui lisons la Bible, il est dit que le dernier ennemi que Dieu va anéantir sur terre, c'est la mort. Parce que vous savez, ça fait mal, hein, parce que ça fait mal lorsque vous perdez un être cher. C'est pas que la personne a voyagé, qu'elle va aller revenir, mais vous n'allez plus la revoir nulle part. Donc, vraiment, les condoléances les plus listées à ces familles éplorées.
Mais c'est ce qui rend vraiment la vie absurde, hein, quand on pense tout simplement que l'être très cher avec qui on est tout le temps, et finalement, il disparaît et qu'on ne le verra jamais.
C'est ça la vie. C'est-à-dire que, vous savez, nous avons trois étapes ou bien deux étapes dans la vie. C'est-à-dire qu'on est, on grandit et après on meurt. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir ça en tête. Vous pouvez être riche, Pascal, oui. Vous pouvez être pauvre. Vous savez, le bien commun que quand même nous avons sur cette terre ensemble, que tu sois pauvre ou riche, géant ou court, c'est la mort. C'est-à-dire que personne ne pourra dire que lui n'a pas l'argent pour aller acheter ça. Et ça ne s'achète même pas. Quand ça vient, tu pars. C'est pourquoi il est important que lorsque nous sommes vivants, que nous puissions faire du bien. C'est ce qu'on nous invite à faire. C'est-à-dire, lorsque tu quittes cette terre, que les gens disent quand même que tu as posé des jalons. Les jalons peut-être qui a aidé quelqu'un quelque part, ou si tu as soutenu quelqu'un dans un malheur, ou bien tu as sorti quelqu'un d'une situation. C'est tout ce que nous pouvons faire sur cette terre. On ne peut plus donner quoi que ce soit à un homme, de lui venir en aide, de le soutenir, peut-être lorsqu'il a des problèmes. C'est ça, c'est ce qu'on nous demande. On ne peut rien faire. Parce que Pascal, là où tu es, tu ne peux pas donner la vie. Tu ne peux pas également ôter la vie à quelqu'un. Si tu passes par peut-être que sur des chemins mystiques pour ôter la vie à quelqu'un, mais il y a un sort qui t'est réservé. Donc, ce n'est même pas la peine d'ôter la vie de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas donner la vie à quelqu'un.
D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Nous sommes rejoints aussi par le fils de Couvé. Didier Soba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour aux aînés, Uriel et Jacques, et donc voilà.
J'espère que tu as bien passé le week-end.
Oui, Dieu fait grâce, on est en santé.
Justement, on est sous la grâce.
On parle là de la mort, nous ne sommes pas morts, donc Dieu nous a préservés, c'est ce qui compte, et le week-end d'ailleurs, on en a profité pour lui rendre grâce et honneur pour la vie qu'il nous a préservée, qu'il nous a gardée. Donc oui, ça va. Pour le reste, on va dire que c'est le passage obligé, ce sera le sort qui est réservé à tout être humain sur la terre au final. La mort, c'est le sort qui est réservé à tout être humain au final sur la terre. La Bible dira que l'arbre a même un meilleur sort, parce que quand il meurt, et ses racines sont dans, sous la terre et ressent donc l'odeur de l'eau, l'arbre pourra repousser, mais l'homme, quand il meurt, quand il expire, où va-t-il? Et donc, c'est d'ailleurs ce sort-là qui doit naturellement amener les uns les autres à savoir raison garder dans, leur, dans leurs actes et dans leur comportement de tous les jours, et à avoir à prendre conscience de toutes les responsabilités qu'on nous confie, qu'on soit commis de l'État, qu'on soit élus locaux, qu'on soit, je sais pas, serviteur de la République quelque part, qu'on garde à l'idée quand même que quand on est puissant aujourd'hui, on le sera pour un temps. Quand on est grand aujourd'hui, on le sera pour un temps. Quand on est positionné aujourd'hui, au perché aujourd'hui, on le sera pour un temps. Et il faut, ce qui comptera, c'est au final, qu'est-ce que les gens vont garder de vous, quelle information, quelle nouvelle, quelle image les gens garderont de vous, et surtout avoir à l'idée que ce sont les œuvres qui accompagnent après qu'on ait passé le cap de la mort, c'est les œuvres qui accompagnent au final. On a eu beaucoup de décès, vous les avez cités, parmi certains de ces décès, vous avez vu un peu d'inter. Des gens se demandaient si certains pouvaient également rire, et tout ça, on en a lu un peu sur la plateforme, sur des réseaux sociaux un peu partout. C'est en même temps déplorable, mais ça nous amenait à poser assez de questions pour voir pas l'homme et pourquoi l'homme pourrait agir d'une certaine façon. Là, on perd les maires en série, on perd des officiers en série, on perd des soldats en série. Je crois quand même qu'il faut quand même qu'on prie la providence de nous préserver pour le restant de l'année, parce que cette année, c'en est déjà de trop. Tout ce qu'on a perdu comme personnalité, comme élus locaux, comme députés ou anciens députés, on en a perdu un certain nombre. Et plaise à Dieu de garder le reste de serviteurs de la République qu'on a jusqu'à la fin de l'année et qu'ils continuent de donner le meilleur de ce qu'ils ont en eux pour la bonne marche du pays et de la République. Ce sera ma prière de ce matin.
D'accord, la prière est exaucée, je sais bien. Alors Uriel, c'est vrai que Didier a posé un certain nombre de questions, et finalement, vraiment, quand on parle alors de la mort, surtout c'est vrai que ce n'est pas un tabou, on va en parler, puisque ça fait partie même également de notre être, hein, que nous sommes. Mais au-delà de tout, en tant que responsable, quelqu'un qui occupe un rang, un poste, alors au niveau même d'ailleurs au niveau de dans la République, finalement, ce sont des décès quand même qui doivent nous interpeller à mieux faire ce que nous voudrons faire, parce que peu importe la situation, un jour nous mourrons.
C'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes là, et bien faire ce pourquoi nous sommes là et bien partir. Je voulais d'abord voir si Jacques ne peut pas revoir un peu le principe qu'il vient d'énoncer, à savoir naître, grandir et mourir. Est-ce qu'on ne peut pas dire naître, vivre et mourir? Parce qu'on peut naître, ne pas grandir et mourir aussi. Si c'est possible de revoir ça, ça me ferait beaucoup
plaisir. Peut-être
que
vous l'avez amené à revoir.
D'accord. Alors, par rapport à la responsabilité que l'être humain a, c'est très compliqué. Je pense déjà à la naissance, nos parents nous ont éduqués. Déjà même à 10 ans, nous savions que nous sommes là pour une mission, pour une responsabilité. Qu'elle soit de quel ordre, nous avons le devoir de l'assumer d'une façon correcte. Hein, pour qu'au dernier jour, comme Didier l'a si bien signifié, qu'on puisse dire voilà, nous avons perdu un être cher. Il fallait qu'il soit là pour continuer sa mission. Il était là, il était très bon. C'est lui qui nous aidait à faire ceci ou cela. Mais moi, j'ai un principe. Et ce principe, je l'ai acquis depuis ma famille, mes parents. Lorsque quelqu'un décède, tout ce qu'il avait fait de mal, à ça, là, je l'avais fermé. Ah, on n'en parle plus. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas exemples des défauts, des péchés et de tout ce qui est négatif. Lorsque quelqu'un décède, soit vous priez pour le repos de son âme, soit vous lui souhaitez tout ce que vous pouvez lui souhaiter de bon, de l'au-delà. Ce n'est pas l'occasion pour qu'on revienne, même si on le savait, sur les erreurs commises par chacun. Nous avons notre culture africaine. même si ça se passe de l'autre côté autrement, la culture africaine nous apprend quand même qu'après le décès, la bataille se limite là. Même si la personne était ton ennemi, ton adversaire, alors elle n'est plus. Tu fais face à personne, au néant. Donc mieux vaut lui souhaiter un bon repos, une bonne place auprès du Dieu créateur. Sinon moi, je n'ai jamais eu pour vocation d'évoquer les défauts de ceux qui sont partis de cette façon, et je ne le ferai pas.
D'accord. Jacques, c'est vrai, nous parlons plus alors de nos responsabilités que peut-être la société nous confie ou la République nous confie. Il est très important quand même que, quand on sait que tout n'est que vanité, que nous assumons bien ces responsabilités, que par après, qu'on dise « mais oui, ici vécu vraiment un homme qui fit bien son travail ».
Je suis d'accord avec vous. Vous savez, nous sommes venus nus, nous allons repartir également nus. Même si vous avez un milliard sur votre compte, que vous soyez milliardaire ou que vous soyez pauvre, le jour de votre enterrement, on ne va pas mettre ces milliards-là dans votre cercueil pour que vous puissiez partir avec. Même si on le fait, vous allez voir que la nuit, certains vont casser le cercueil là pour prendre, pour prendre l'argent qu'on a mis dans le cercueil. Je me rappelle une fois, chez nous, on avait enterré quelqu'un comme ça, où on avait mis combien? Je crois que c'était 250 000
c'est où?
Pour l'aider d'aller prendre de l'eau là où il va. Mais le lendemain, il fallait voir. Les gens vandalisaient la tombe pour les 250 000. Il dit, mais ça c'est normal. Mais les gens ont fait, vous mettez de l'argent comme ça, les termites vont après s'en occuper. Donc c'est pour vous dire que vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre. C'est, au fait, c'est ça. C'est-à-dire que si nous comprenons l'aisance même de l'homme, la création, quand Dieu créa effectivement l'homme sur cette terre, nous ne sommes pas là pour faire de la, pour décortiquer la Bible ici. Mais ce que nous faisons, c'est que Dieu a mis les potentialités en l'homme. C'est-à-dire, l'homme doit travailler et l'homme doit vivre de la sueur de son front. Et c'est ce que la Bible nous a dit. Et lorsque vous avez, par exemple, ces biens, vous êtes obligé de partager les biens que vous avez. Sans ça, souvent que je félicite nos amis, nos amis musulmans qui ont compris, effectivement, le fait de faire, effectivement, ce don. Aider son prochain. Aider son prochain, c'est dans la Bible. C'est-à-dire que lorsque vous êtes là, vous avez les moyens. Votre frère qui est à côté, qui n'en a pas, il faut effectivement le soutenir. Et lorsque vous allez quitter sur cette terre, vous savez que vous aussi, vous avez quand même accompli l'œuvre avant de quitter. Mais si vous ne le faites pas, vous avez des milliards qui sont là, qui croupissent dans les banques et autres. Lorsque vous mourrez, si vous ne savez pas faire, c'est les enfants là encore qui vont s'entretuer. L'argent que vous avez laissé encore va tuer l'argent. C'est plutôt à dire que la progéniture, cette progéniture-là, ils vont se tuer. Donc je crois que faisons ce qui est bien sur cette terre. Lorsque nous avons quelque chose de bien à partager avec les autres, faisons-le. Il faut qu'on le fasse. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne te forcer à le faire. Parce que vous savez, il faut reconnaître que dans ce monde, vous pouvez être riche n'importe comment. Mais sachez qu'il y a peut-être quelque chose qui va manquer dans votre maison. Vous allez voir des riches souvent. Vous allez croire qu'ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Mais vous allez remarquer peut-être que chez eux, ils auraient besoin peut-être d'une aiguille. Peut-être le pauvre qui est à côté pourra leur prêter effectivement cette aiguille-là. Peut-être que le riche est là, peut-être son gaz, c'est avec, comment on appelle ça, les briquets qu'il a nus. Mais à un moment donné, peut-être il n'en disposait pas. Peut-être le pauvre peut lui donner la bûchette d'allumettes. Non, c'est pour vous dire que nous nous complétons sur cette terre. On n'a pas besoin de ne pas venir à l'aide lorsque quelqu'un en a besoin. Donc, il faut le faire.
D'accord, il faut le faire. Alors, Didier, c'est vrai que nous avons appris que le colonel Akobi est décédé suite à une crise cardiaque, ce qui veut dire que pour ce qui concerne surtout notre santé, moi, je voudrais quand même revenir là-dessus. Je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus. Il est très important quand même qu'on soit un peu regardant sur notre santé.
Oui, la santé naturellement, quand on parle de la mort et on parle de la vie, au beau milieu se trouve naturellement l'entité santé dont tu parles. Et quand on a la santé, on a la vie. Et quand on en a non la santé, donc c'est la mort qui vient inéluctablement. Je crois fondamentalement que la question de la santé interpelle tout le monde. Ça n'a pas une question. Ça n'exclut pas un âge donné, ça n'exclut pas une couche donnée, ça n'exclut pas ça n'exclut personne. Et donc, du coup, il faut que tout le monde veille naturellement sur sa santé. Qu'on soit autorité, qu'on soit du bas peuple, qu'on soit qui on soit, je pense que naturellement, il faut travailler sur la santé. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que nous avons l'opportunité et l'occasion d'en parler, nous sollicitons auprès des autorités de revoir le système sanitaire pour qu'il soit, autant pour moi, à jour, à même de pouvoir sauver les vies quand il y en a besoin. Je crois que ce malaise, on pourra peut-être pronostiquer sur tout ce qui pourrait arriver ou ne pourrait pas arriver. Si le malaise là, je ne sais pas, je ne maîtrise pas tous les contours, mais si ça avait peut-être eu lieu à Lomé, on peut-être qu'on parlerait, on dirait autre chose aujourd'hui, ou peut-être qu'on n'aura même pas de nouvelles dans ce sens. Et est-ce que quand il a eu le malaise et qu'il a eu cette crise là, il a été acheminé à l'hôpital? Y a-t-il dans cette zone là un hôpital à même de pouvoir traiter convenablement? Je ne dis pas que ce que je dis c'est ce qui s'est passé, mais je me pose juste
c'est
des questions.
C'est une hypothèse, c'est normal.
Je me pose juste des questions. Est-ce que s'il avait été envoyé dans un hôpital là-bas après la crise cardiaque, est-ce que on a des structures sanitaires là-bas dans la région à même de pouvoir s'occuper convenablement de ce genre de situation, de ce cas-là, de pouvoir réanimer ou de pouvoir ramener ou sauver le colonel si ça avait été le cas? Au-delà du colonel, combien de Togolais font des crises pareilles dans des zones reculées du pays où il n'y a pas de structure périphérique de soins ou de centres médicaux sociaux ou d'hôpital à même de pouvoir les sauver?
Même des équipements.
Oui, naturellement. Donc, quand on n'a pas la structure, ça se comprend qu'on n'a pas, on n'a pas l'équipement. Et donc, du coup, des situations comme ça doivent nous amener, en tant que République, à réfléchir davantage sur comment on améliore le système et comment est-ce qu'on on maille le pays avec de structures sanitaires. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits, mais à chaque fois, les réalités nous disent et nous démontrent que ces efforts mérite d'être accentué ou d'être multiplié ou décuplé, si vous voulez, pour que naturellement on puisse véritablement aider les Togolais à trouver de meilleurs soins dans de meilleurs hôpitaux ou meilleurs centres de santé à travers le pays, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient à Lomé, qu'ils soient à Dapan, qu'ils soient à Pékankandi, c'est ça, ou je sais pas, Mandouri, à Kouvé, un peu partout sur le territoire, qu'ils puissent véritablement, quand il y a un malaise, qu'il y a un petit souci, puisse se rendre dans un centre de santé public digne de ce nom et qu'il puisse être pris en charge et être sauvé si le Créateur le permet. Je crois fondamentalement que cette question de santé, on finira jamais de la poser, on finira jamais d'épiloguer là-dessus. Souffrent quand même certaines personnes qu'on en parle et ça permet peut-être d'éveiller quelques consciences.
Oui, Urel.
Non, je pense que c'est un angle très important que Didier évoque ici, puisque il y a certaines morts évitables, il y a certaines morts qu'on pouvait éviter. Quand il a parlé, j'ai eu en souvenir le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abbas Bonfo, qui avait aussi également une crise chez lui dans son village natal. Et il semblerait même qu'il manquait beaucoup de dispositifs qui devraient le prendre en charge au centre de santé là-bas. Même l'oxygène n'était pas tellement disponible et tout ça. Donc, pour dire que c'est bien, cet angle-là, il faudrait quand même que ce qu'on a à Lomé, on puisse l'avoir dans tous les chefs-lieux de région, au moins, au minimum, pour qu'on puisse sauver certains patients. Il y a des morts, des fois, vraiment, qui sont fâcheuses, qu'on pouvait éviter, mais faute du matériel, de la logistique, de la ressource humaine formée pour la prise en charge, les gens meurent gratuitement comme ça. Moi, je me souviens tout dernièrement, pour une indiscrétion, est-ce que vous savez que si vous avez un patient qui souffre de l'insuffisance rénale, est-ce que vous savez que c'est à Lomé seulement qu'on peut lui faire la dialyse.
Oui,
c'est à l'ONU seul.
C'est
à l'ONU seul. J'ai vu des gens qui ont souffert prendre les patients depuis Dapaon, depuis Kara. Et vous ne pouvez pas imaginer comment c'est pénible pour Lomé pour faire la dialyse. Pourquoi ne pas avoir en ces dispositifs-là, ces appareils-là, ces médecins-là, dans chaque région, au moins ne serait-ce qu'au niveau des chefs-lieux de région, pour sauver certains cas, en attendant qu'on ait vraiment des hôpitaux dignes de ce nom, comme Dr Lavia à Lomé, qu'on peut avoir partout. Et c'est vrai, l'hôpital peut être un hôpital de référence à quel niveau que ce soit, mais il y a des maladies aussi qu'on ne peut pas. Le maire Golfe 2 n'a pas été malade à l'intérieur du pays, il a été malade à Lomé, on sait où on l'a traité, on sait où il est décédé, mais ça aussi ce sont des cas d'hommes, mais quand même il faut souhaiter qu'il y ait des centres de santé dignes de ce nom à l'intérieur du
pays. Oui Jacques, il est important aussi qu'on arrive à avoir des dispositifs nécessaires pour traiter alors les malades.
Vous savez, Pascal,
oui,
on l'a toujours dit, si ne serait-ce que les grands centres, dans les, par exemple les grandes villes, vous prenez une ville comme Dapaon, vous prenez une ville comme Kara, vous prenez une ville comme Bassar, Atapame, Palimé et autres, il faudrait quand même que le gouvernement fasse tout pour qu'on puisse avoir des hôpitaux dignes de ce nom. Vous vous rappelez du cas de feu ministre Kofi Panou? C'est une crise cardiaque également qu'il a emportée à Bassar. Faute de quoi? D'oxygène.
Bassar encore?
Oui, c'est à Bassar, Kofi Panou. Faute d'oxygène qui a fait que Kofi Panou est parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le colonel Akobi à Dapaon. Comment on nous parle d'une crise également cardiaque?
Des malaises.
Voilà, on ne sait pas. Est-ce que c'est également un problème d'oxygène au niveau du CHR d'Apaon? On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc les jours à venir vont également nous renseigner. Et vous savez, pour ceux qui ont fait, par exemple, qui connaissent un peu le Nigeria, le Grand Nigeria, vous savez ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que c'est vrai que dans les grandes villes, ils ont les hôpitaux, mais au bord, par exemple, des routes, vous allez voir des conteneurs. Des conteneurs où vous allez voir au moins un matériel des soins primaires. Quand quelqu'un, par exemple, accidenté, ou bien vous savez que souvent certains circulent, ils tombent au milieu de la route pour problème de crise cardiaque. Ça se passe. Vous voyez, au Nigeria, ils ont tout fait. Quand vous allez, par exemple, dans les contrées, vous allez dans les carrefours, vous voyez, par exemple, ces conteneurs. Et il y a toujours un médecin en permanence qui est dedans. Et lorsque, par exemple, il y a un accidenté, avant qu'on l'évacue pour l'amener vers peut-être un centre digne de ce nom, il a quand même les premiers soins dans ce conteneur avant qu'on l'amène vers l'hôpital. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le Togo, nous puissions réfléchir plus encore pour ce qui concerne le problème de nos hôpitaux. C'est vrai que quand vous allez aujourd'hui au nord, les Baptistes ont actuellement un grand hôpital là vers Mango. Et je vous dis que c'est cet hôpital-là qui sauve aujourd'hui beaucoup de vies dans cette localité. Il y a un autre également qui a une clinique là à Saint-Cancé. Il est financé par les Allemands. C'est lui également qui soigne aujourd'hui nos compatriotes au niveau de cette région. Il faudrait que l'État puisse repenser une fois encore à la question de nos hôpitaux. C'est très important, Pascal. Il y a des détails sur cet incident d'Akobi qu'on ne va pas parler de ça sur ce micro, parce que la famille est pour le moment en deuil. Mais je crois véritablement, il faudrait qu'on puisse encore penser à nos hôpitaux.
C'est très important.
Pascal, j'ai assisté à un accident quand je revenais d'Apan un jour. Voilà un monsieur qui a cassé sa clavicule. Faire même le scanner pour voir un peu comment faut-il procéder et tout ça. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. Finalement, on l'a évacué vers Lomé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit Pascal, il a beaucoup saigné. Jusqu'à ce que on le dirige vers une clinique pour faire la radio pour voir ce qui s'est passé. Il a trépassé. Donc il faudrait aujourd'hui, quand on parle, on n'est pas là pour peut-être critiquer ou bien, mais c'est des choses, c'est des faits réels, des choses qui se passent dans notre pays. Revoyons un peu le système sanitaire au niveau de nos hôpitaux. C'est vrai qu'entre-temps, on a suivi un peu le reportage d'une chaîne de télévision sur le cas de nos hôpitaux ici à Lomé.
Notamment du CHU Sylvanus Olympio.
Justement. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas prendre ça en mal, mais c'est des choses qu'il faut corriger. Parce que, quoi qu'on dise, Pascal, nous tous qui sommes ici, nous sommes des malades ambulants. À un moment donné, si ce n'est pas toi, quelqu'un, peut-être un membre de ta famille, peut tomber également malade. Mais est-ce que nous tous, on a les moyens d'aller, par exemple, vers les cliniques pour se faire soigner? On n'a pas les moyens. Ce n'est pas tous qui ont les moyens pour aller vers les cliniques pour se faire soigner. Donc aujourd'hui, l'État a l'obligation de revoir les centres sanitaires au niveau de nos régions. Ça, c'est important pour nous.
D'accord, c'est important. Alors, Jacques nous a tendu la pêche, hein, par rapport même d'ailleurs à cet exemple qu'il a donné pour celui-là qui a eu un accident. Uriel, c'est vrai que vous parlez de décès liés aux accidents de la route ce matin à la 1h de votre journal. Vous écrivez décès liés aux accidents de la route. Selon l'OMS, l'Afrique connaît une hausse de 17% au cours des 10 dernières années. Alors là, ça veut dire que pour ce qui concerne les accidents de la route, ça devient même d'ailleurs tout un danger public pour la population.
Vous savez, quand un sujet est lié à la route, que ce soit la construction de la route, l'entretien de la route, les accidents de la route, les bêtises sur la route, ce sujet concerne le journal Mega Info. C'est pourquoi on s'y est intéressé, parce que l'OMS a essayé de dresser le bilan, je pense, le mercredi, et à travers sa chef d'équipe en charge de la prévention des violences, blessures, handicaps et de la sécurité routière. Ça, c'est l'OMS Zone Afrique. Elle a révélé en tout état de cause que, contrairement aux autres zones de la planète qui connaissent une baisse de décès liés aux accidents de la route, l'Afrique, au contraire, connaît une hausse jusqu'à 17%. Au moment où les gens prennent des dispositions pour réduire les cas de décès liés aux accidents de la route, l'Afrique a opté pour augmenter. Et curieusement, les raisons sont si simples. À mon avis, les raisons évoquées par l'OMS sont si simples que je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire un effort. La première cause, c'est le mauvais état des infrastructures routières. Et ça, c'est connu de tous. Le mauvais état des infrastructures routières. Ça, il n'y a rien à faire. Lorsque vous avez un réseau routier défaillant, ce réseau ne peut être que porteur d'accidents. Ça, c'est clair. Les trous par ici, les routes non bitumées par là, tout ce qui est lié à cela, et il faut qu'on fasse extrêmement attention. La deuxième cause, c'est que le continent africain est celui-là qui importe majoritairement les véhicules d'occasion. Et ces véhicules, dits véhicules d'occasion, sont des véhicules précaires. Tu l'achètes 2 semaines, 3 semaines, 3 mois après, il tombe en panne. Et c'est ces véhicules-là qui nous créent beaucoup de dégâts sur la route. Cela est dû à quoi? C'est parce que nous n'avons pas les moyens pour acheter les véhicules fabriqués, sortis des maisons de fabrication. Point d'interrogation. Sinon, les deux causes sont les causes majeures qui provoquent les décès énormes sur nos routes. Donc, l'OMS attire l'attention du continent africain et recommande que l'investissement sur la construction des routes, l'entretien routier soit plus conséquent et qu'il soit bien fait pour que les humains ne meurent pas désormais, ne meurent désormais sur la route. Et puis s'agissant des véhicules d'occasion aussi, mais chaque pays est libre, hein. Le Togo, par exemple, peut décider. Je pense que c'est ce que le Togo a commencé en encourageant ceux qui achètent les véhicules, dit véhicules maison. Lorsque vous achetez une voiture maison, je pense que vous avez un avantage par rapport comment vous appelez ça, c'est la valeur ou c'est les impôts. Je pense que c'est ce que le Togo a commencé en encourageant ceux qui achètent les nouvelles voitures. Donc, vivement que les autorités de tout le continent prennent en compte ce bilan désastreux. Rien que pour 2021, on compte plus de 250 000 décès dus aux accidents de la route. C'est pas normal. Ce qui est curieux, très curieux, que ce chiffre est en baisse ailleurs. Mais c'est chez nous qu'il est croissant. Voilà. Donc ça doit attirer notre
attention. Ça doit attirer notre attention. Didier, c'est vrai que il a donné le chiffre tout de suite, que déjà rien qu'en 2021, on estime presque à 250 000 morts, rien que pour justement l'année 2021. Et l'âge des victimes est compris entre 15 à 64 ans. Et souvent, pour ceux qui sont souvent des victimes, c'est les motocyclistes, les piétons, les cyclistes. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a un problème.
Oui, naturellement, il y a un problème. Heureusement que c'est l'OMS qui, là, parle quand même des causes que des gens n'accepteraient pas. Mais c'est quand même l'OMS qui parle. Et quand on dit l'OMS, au moins tout le monde, on peut critiquer, mais tout le monde peut se mettre au moins d'accord. Quand l'OMS dit que l'une des principales causes, c'est le mauvais état des routes, ben là, ça veut tout dire. Ça veut naturellement tout dire. Le mauvais état des routes ou la mauvaise construction des routes ou la mauvaise planification de la construction des routes. Moi, je mets dans tout ça. Prenez, je suis allé, j'ai visité une famille le week-end. J'ai pris la route de Gomédouane vers Segbe. Si vous voyez le calvaire qu'on a sur cette route et la possibilité d'avoir un accident à chaque mètre, vous comprenez naturellement pourquoi ce chiffre peut être naturellement gonflé ou peut se gonfler même pour des années à venir. Si on ne prend pas garde ou on ne planifie pas de la meilleure des façons la construction des infrastructures routières de façon à minimiser déjà les risques d'accidents même sur ces routes là et on se plaît juste à faire quelque chose pour sauver juste quelque chose, sauver les meubles comme on dit, je crois que on crée des conditions accidentogènes sur des routes pour que les gens puissent se cogner à tout moment et que les chiffres comme ça s'augmentent. Le mauvais état des routes, déjà qu'on n'en a pas assez. Et quand on veut construire, on se permet de mal les construire et de ne pas mettre des conditions qui permettent d'éviter autant que faire se peut des contacts entre les usagers de la route et pour qu'il y ait des accidents. Pourquoi vous voulez que on n'ait pas des chiffres comme ça? Et vous avez vu la tranche d'âge. C'est les bras valides.
Oui.
C'est ceux qui doivent construire le pays, construire l'Afrique, qui meurent entre 15 et 64. Alors que des gens ailleurs, là, ils veulent même que des gens de 64 continuent de travailler. Nous-mêmes, nous mettons des conditions en place pour que ces gens-là meurent ici. Et après, on va dire qu'il y a l'imprudence et tout ça, mais vous voyez, quand il y a assez de routes et la route est bien construite et qu'on évite autant de contacts, je pense qu'il y a moins d'accidents. Je vous donne cet exemple. Quand ils ont construit la portion de la route de Lomé-Vogan entre le collège Saint-Joseph ici et le pont de Kégué, quand ils avaient construit cette route-là, ils n'avaient pas mis de séparation. Si vous voyez chaque jour le nombre d'accidents qu'il y avait, mais c'était vraiment ça. Tout le monde déplorait ça. Mais depuis qu'ils ont mis le tiers-plein central là, vous avez entendu encore parler de quoi, que c'est, il y a tel accident là-bas, il y en a moins maintenant. Si, je ne dis pas qu'il y a zéro, mais il n'y en avait plus. Mais quand ils avaient laissé la route comme ça, il n'y avait pas de séparation, mais les gens se cognaient, les gens se ramassaient, il y avait tellement de décès. Mais depuis qu'ils ont mis le tiers-plein là, la route est maintenant en aller et retour, on parle moins d'accidents sur cette voie par exemple. Je prends juste cet exemple-là. Donc, on peut multiplier ça sur d'autres voies. Peut-être pour le prolongement de la route, là même dont je parle, jusqu'à Vaughan. On peut multiplier des exemples un peu partout. Et maintenant, quand l'OM parle également de la question des voitures, Mais voilà, c'est également un gros souci qu'on a. On a aujourd'hui une politique au Togo où les jeunes ne peuvent pas aller s'acheter facilement de voitures. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est la faute à l'État, mais bon, c'est notre pays, notre système qui a fait cela. Qu'aujourd'hui, quand les jeunes ont 800 000 ou 1 million, la seule possibilité qu'ils ont, c'est peut-être d'aller, on ne va pas faire de publicité aux sociétés de moto, mais la seule possibilité qu'ils ont, c'est d'aller s'acheter une moto et pour démarrer leur vie. Alors qu'ailleurs, peut-être qu'on pourrait avoir une politique un peu plus ambitieuse, un peu plus, voilà, un peu plus domestique, un peu plus orgueilleuse, si vous voulez me permettre le terme, pour que ces jeunes-là, au lieu de se diriger vers les concessionnaires de motos, puissent véritablement avoir la possibilité de s'acquérir une voiture. Et ça permettrait naturellement, quand on aura assez de voitures, avec des gens qui maîtrisent le code de la route, ils sont dans la circulation, on aura moins d'accidents. Mais quand on a plus de motos au Togo que de voitures, et c'est les gens de moto, on a une foire de moto dans le pays, et c'est les gens de moto qui animent plus la circulation que les automobilistes, ça va de soi que, puisque les conducteurs de moto ne maîtrisent pas le code de la route et font ce qu'ils veulent dans la circulation, ça va de soi qu'on est plus, de plus en plus d'accidents de circulation et au Togo. Et je ne sais pas jusqu'à quand cela va s'arrêter, mais on peut continuer à mûrir les réflexions dans ce sens-là pour éviter que dans les années à venir, que ça continue, qu'on ait plus de motos, enfin, je dis une foire de motos dans la circulation à chaque fois, par rapport au nombre de véhicules, enfin de voitures qui sont dans la circulation.
D'accord. Jacques, c'est vrai que nous dénonçons le mauvais état, hein, surtout alors de nos routes, mais également quand il y a ces routes qui sont bitumées, avec peut-être alors l'imprudence et aussi l'augmentation alors des vitesses alors sur ces routes, automatiquement ça crée aussi alors des accidents, donc ce qui veut dire qu'il y a un travail également à faire, un travail du civisme, ouais, à faire également à notre niveau en tant qu'usager.
Non, vous savez, la route n'a aucun problème. Quand vous constituez une route, vous la déposez, dites-moi quel problème la route a. Mais c'est les usagers qui sont problème, c'est nous au fait. La responsabilité des accidents incombe d'abord aux usagers. La route n'a aucun problème. Vous comprenez ? C'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous-mêmes, nous puissions avoir à l'idée que lorsque nous sortons avec notre moto, nous sortons par exemple avec notre vélo ou notre voiture, notre vie dépend de comment nous empruntons cette voie et ce que nous faisons de cette voie. Si on ne le fait pas bien, mais écoutez, qu'est-ce qui va nous attendre ? C'est les accidents et c'est à quoi nous sommes en train d'assister. Vous voyez? Donc, moi, je dis, la route n'a qu'un problème, mais c'est nous qui pratiquons ces routes-là qui ont des problèmes. Vous savez, j'ai une fois assisté à un accident là au niveau de l'hôpital ici à Tocoin. Voilà un monsieur qui est sorti, qui est revenu de l'Europe. Il était en train de marcher avec sa femme, tranquillement. Ils faisaient leur sport, leur jogging le matin. Voilà un tricycle qui a quitté, vous voyez, la jonction de... Il y a une pharmacie là.
Là c'est les ovnis.
Voilà. Donc, le monsieur voulait traverser avec sa femme pour rentrer chez eux. Le tricycle a ramassé le monsieur. Il est mort sur le champ. Oui, il est mort sur le champ, Pascal. Il a dit que, dites-moi, ce monsieur-là, est-ce qu'il a un problème? Mais c'est l'autre là, le tricycle-là qui a eu un problème, qui est venu le ramasser. Et autre aspect, comme il le disait tout à l'heure, vous savez... Quand vous prenez aujourd'hui l'ensemble de nos frères qui ont les moyens, qui ont par exemple leurs petits frères qui sont dans les villages, lorsqu'ils viennent par exemple à Lomé pour chercher de l'emploi, l'emploi simple aujourd'hui qu'il y a, c'est d'aller acheter une moto et de donner aux petits frères pour qu'ils puissent travailler. Le petit frère qui ne maîtrise pas par exemple les routes ici à Lomé, il ne fait pas peut-être une distinction entre les feux rouges. Mais est-ce que ce que vous voulez que la personne la fasse? C'est des accidents. Oui, donc je crois que le plus important aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui nos villes, nos villages se vident parce que les jeunes, les bras valides que nous avions dans ces villages pour cultiver aujourd'hui, personne ne veut plus encore cultiver avec la daba, avec la houne, le coucou. Il faudrait aujourd'hui que c'est vrai que l'État essaie de mécaniser, c'est vrai qu'ils sont en train de le faire, mais il faut que l'État accentue une fois encore cette mécanisation-là au niveau effectivement de nos campagnes, au niveau de nos villages. Parce que la plupart de nos villages sont en train de se vider aujourd'hui. Les bras valides ont quitté presque les villages. Quand vous faites par exemple un sondage, vous allez vers les villages, C'est les vieux, les vieilles là qui sont là, qui ne peuvent même plus cultiver pour pouvoir effectuer à manger. Et finalement, quand vous voyez leur situation, ça fait quand même pitié. Ça fait pitié. Donc je crois que les accidents, c'est vrai, mais il est important également que nous, qui sommes usagers par exemple de ces véhicules, de ces motos, de ces voitures, nous puissions être conscients que lorsque nous sommes sur la... Quelqu'un qui est sur une moto, Pascal, mais c'est un cercueil, ambulant. Si vous ne faites pas doucement, si vous ne roulez pas doucement, un véhicule vous ramasse, mais vous partez.
Puisqu'il n'y a même pas de carrosserie.
Justement, et l'autre aspect, c'est quand les gens prennent souvent les tramadol, ils prennent de l'alcool avant de prendre la route. Ces gens-là, je vous dis, ils ne font pas une distinction entre les trajectoires, les traversées et autres. C'est-à-dire que eux, partout tout, ils passent. Et ça crée également des accidents. Donc, il faudrait que la responsabilité d'abord nous revienne, nous, en tant que motocyclistes, nous qui prenons également les volants des véhicules, et savoir que lorsque nous prenons nos routes, il est important que nous puissions respecter le code de la route.
D'accord, alors nous allons quitter le sujet. On parle maintenant politique. Il y a le journal Le Correcteur hein, qui titre à sa une ce matin « Professeur David Doucet admiratif à l'ordre du député Guy Marius Sagna ». Alors, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à ce député sénégalais. Bien sûr, il y a eu même d'ailleurs une rencontre des parlements de la CEDEAO déjà le samedi dernier, le 20. Et au cours de cette rencontre, il y a le député Sagna qui a pris la parole et qui a désingué en quelque sorte alors les chefs d'État africains et qui parlait même d'ailleurs de ces chefs d'État qui sont à la base alors de la pauvreté des populations. Il citait même d'ailleurs des présidents comme le président Ouattara, le président Patrice Talon et même le président togolais Faure Gnassingbé. Et cela causé même d'ailleurs le courroux de la vice-présidente alors du Parlement et automatiquement Azaratou Traoré s'est fâché et cela a créé même des altercations entre les deux. Alors finalement, alors quand on suit même la réaction de ce député, le député Sagna Uriel, finalement on pourra dire quand même que c'est quelqu'un qui arrive à refléter les aspirations alors du peuple ou des peuples, c'est ça?
Non, le problème c'est la méthode, c'est la pédagogie qu'il a adoptée. Le contenu de son message n'est pas un mauvais message, n'est pas un mauvais contenu, pardon, mais c'est la manière. C'est la manière. Avant d'arriver au Parlement de la CEDEAO et de la façon dont il s'adressait à ses chefs d'État, je pense quand même qu'il pourrait écrire, il ferait mieux d'écrire un document qu'il déposa à la disposition du Parlement de la CEDEAO. Vous savez, vous pouvez avoir...
Comme ça, est-ce que vous pensez que ça aura d'écho? Puisque déjà, quand lui pense que la manière dont il va réagir, tel qu'il le fait actuellement, c'est ce qui aura plus d'écho?
Non, il y a une chose, c'est d'avoir l'écho, que votre message ait un écho. L'autre chose, c'est qu'il ait un impact, que les échos aient un impact aussi. Moi, je salue le contenu de ses propos, mais il pouvait les prononcer avec plus de courtoisie. C'est tout ce que je veux signifier. Le contenu, je ne suis pas contre le contenu de son message, mais il pouvait adopter une autre forme de courtoisie hein, pour livrer son message. Je vous assure que on pourrait même lui octroyer encore plus de temps à continuer. Et contrairement à ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas joli, ce n'est pas agréable. Moi, je l'invite au mieux de revoir sa stratégie de communication, de revoir la mise à disposition de ses pensées pour qu'il y ait plus d'impact. Sinon, le message en lui-même, il est correct. Il attire l'attention des gens sur ce qui se passe, et si rien n'est fait, on pourra parvenir à telle étape. Donc, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a rien de mauvais. Mais ne le prenez pas comme si il devenait le Jésus de quoi, je ne sais pas. Non, chacun a ses intentions. La preuve, c'est que les autres députés, les autres parlementaires du Sénégal l'ont vivement critiqué et ont suggéré que s'il ne change pas, il pourrait demander qu'on le sorte de la liste de la représentation au Parlement de la CEDEAO.
D'accord. Jacques, quelle est votre réaction par rapport même d'ailleurs à cette réaction, surtout du député, puisque ce n'est pas sa première réaction. Hein. On se souvient même d'ailleurs devant la présidente du Parlement de la CEDEAO, je veux bien parler alors de Maimouna Tou, et il a vivement critiqué même d'ailleurs le président de la République, Faure Gnassingbé.
Non, pour ceux qui connaissent un peu les Sénégalais, vous savez, pour ceux qui sont habitués à regarder un peu le Parlement au niveau du Sénégal, c'est la même chose. Quelqu'un, vous connaissez un peu aussi l'actuel Premier ministre Sanko et autres, a dit que les Sénégalais, c'est leur habitude de pouvoir s'exprimer. Vous vous rappelez au temps de Macky Sall, ce n'était pas du tout facile avec le même député. Donc il est au niveau du Parlement de la CEDEAO aujourd'hui. A dit que c'est la même chose qu'il fait là-bas. Donc je crois que pour ceux qui sont en train de s'énerver, de se fâcher du fait que il est en train de peut-être de d'oser à dire certaines choses, moi je crois que il faudrait plutôt le laisser parler. Et vous avez vu comment notre compatriote Maimouna Tou a pris le temps souvent de pouvoir le recadrer en demandant un peu de solennité,
de courtoisie.
Mais vous ne pouvez pas l'empêcher de parler. Ça, c'est un parlement. Il a droit à la parole. Il est député élu du Sénégal. Il a été également coopté pour le parlement de la CEDEAO. Je crois qu'on ne peut pas l'empêcher de travailler ni de parler. Parce qu'on parle du Parlement, c'est-à-dire le Parlement, c'est d'aller...
Et ça parle.
Donc, on peut pas l'empêcher de dire ce qu'il a et d'exprimer également sa pensée.
D'accord. Didier, alors, son objectif, hein, je veux bien parler alors du député Sanya, est-ce que son objectif n'est pas de choquer? Et finalement, il arrive vraiment à atteindre cet objectif?
Ben, je pense fondamentalement que je ne sais pas pourquoi on en fait tant un événement. Vous savez, le problème que nous avons en Afrique, c'est que on a généralement tendance à promouvoir cette culture-là de pensée unique et univoque. Et quand on voit quelqu'un en train de se démarquer du lot, on le trouve comme un phénomène ou quelque chose d'autre. Alors que nous avons, ou nous disons, même si dans les faits peuvent nous démentir certaines fois, nous disons que nous sommes dans chacun de nos pays dans un processus de démocratisation. Ceux chez qui nous avons appris la démocratie, ils ont ce qu'ils appellent la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'expression, et des gens sont libres de penser et de dire ce qu'ils veulent. Certains peuvent contester la manière et tout, mais ce que le député Sanya fait, on voit d'autres députés qui font pire dans d'autres pays dont nous copions les exemples. On voit des députés français, on voit des députés américains, on voit des députés d'autres pays qui font des choses. On a vu même des bagarres dans d'autres parlements qu'on pourrait considérer comme des gens plus...
Au Sénégal là-bas.
Oui, naturellement. Et donc, voilà. Parce que là, dans des parlements ou dans des assemblées nationales dignes de ce nom, le débat d'idées et le débat contradictoire a pris racine. Et des gens... travail argument contre argument. Tu dis quelque chose, je ne suis pas d'accord, je dis le contraire et je choisis mes mots pour dire le contraire.
C'est la démocratie.
Naturellement. Mais ce que je constate au niveau du Parlement de la CEDEAO, c'est que des gens auraient pu penser que M. Sanya pense comme eux et disent ce qu'eux, ils ont dans la tête. Et quand il ne dit pas ce qu'ils ont dans la tête, il tombe directement sur M. Sanya et il accuse de vouloir dire ci et ça. Tout ce que M. Sanya dit, qui ne le dit pas dans l'espace CEDEAO? Entre les citoyens, là, tout ce que Sanya dit là, au Parlement de la CEDEAO, qui ne le dit pas dans le citoyen, parmi tous les citoyens, qu'on soit du Sénégal, qu'on soit de la Côte d'Ivoire, ou du Togo ou ailleurs, qui ne fait pas ce reproche-là à la CEDEAO, à l'organisation CEDEAO des chefs d'État, syndicats des chefs d'État, manque de libre circulation ou de prise en compte de l'intérêt des populations, qui ne dit pas ces choses? Mais c'est parce que peut-être, je crois fondamentalement que c'est parce que certains croient qu'ils sont beaucoup plus redevables aux chefs d'État qui dirigent l'organisation et peut-être à qui ils doivent leur présence dans les parlements nationaux, et donc ils n'aimeraient pas être comptable de cette critique formulée à l'endroit des chefs d'État. Et donc, ils ne veulent pas qu'on dise, ah, vous étiez là-bas, il a dit ça et vous n'avez pas dit. Les gens veulent juste se justifier par ces réactions-là, ma foi, qui n'avait pas raison d'être. Madame, la députée ivoirienne, naturellement, prendre le contre-pied de ce que M. Sagna dit sans pour autant se déplacer pour aller en vice-présidente quand même de l'institution. Elle aurait pu rester tranquillement à sa place, parler dans le micro, dire le contraire de ce que l'autre a dit si elle n'était pas d'accord, plutôt que de se déplacer pour aller là-bas pour qu'il y ait des altercations. Moi, je pense que c'est un problème de des gens qui n'ont pas la culture de la liberté d'expression.
D'accord, on
va quitter le sujet, bien
sûr. Oui, mais
je pense justement que c'est cette dame même qui est auteur de cette comédie. Si elle était restée justement à sa place et s'adresser d'une autre façon à ces députés sénégalais, je pense que la scène aurait pu prendre une autre tournure.
Puisque la présidente était sur sa place.
Enfin, la Togolaise était à sa place. En ces temps, la vice a commencé par parler, s'est levée même jusqu'à s'approcher du député sénégalais. C'est là même que le scénario a pris une autre forme. Donc, comme Didier l'a expliqué, les gens se disent qu'ils sont redevables à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a un principe de répondre à quelqu'un qui est en train de s'exprimer. On aurait pu éviter tout ça.
D'accord, on aurait pu éviter
non,
cela.
Retenir, oui. C'est que vous savez actuellement, l'enjeu là-bas, c'est l'enjeu CDAO-AES. Ça, il ne faut pas vous écarter de ça, hein. L'AES est
bon, c'est cet invité aussi.
Mais écoutez, c'est ça aujourd'hui.
Il y a les députés Nigériens.
Ce n'est pas là-bas, mais ce que je voulais dire, ne vous écartez pas également de l'hypothèse AES-CDAO. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec les pratiques de la CDAO et il y en a qui sont d'accord sur les pratiques de l'AES. Donc, c'est ce jeu là-bas, c'est ce jeu actuellement que les gens développent là-bas, en sous-main. Donc, c'est pour vous dire que ça ne serait pas du tout facile, ce Parlement-là. Il faut reconnaître que dans les jours à venir, il y a d'autres déballages également qui vont s'en suivre. Donc, que les gens vraiment se calment. S'ils commencent comme ça, j'ai peur que les gens fassent des crises cardiaques là-bas.
D'accord, ok. Alors, nous allons clôturer le débat alors de ce matin avec la politique américaine. On va s'envoler, bien sûr, pour les États-Unis. 30 secondes, justement, puisqu'on va y aller aussi très, très rapidement. Hier, il y a Joe Biden, le président américain, quand même, qui a annoncé, renoncé même d'ailleurs à son deuxième mandat, parce que normalement, il est choisi même d'ailleurs pour briguer le deuxième mandat, mais finalement il a démissionné, ou du moins il a renoncé même cela à hier, et il a demandé plutôt à sa vice-présidente Kamala Harris alors de prendre les rênes alors pour représenter les démocrates déjà pour la deuxième pour l'élection de novembre. Alors finalement, comment vous avez accueilli l'information?
Élégant, je pense que c'est élégant et c'est honnête de sa part, parce que quand on n'est plus en possession de toutes ses capacités et de toutes ses facultés, du haut de l'âge de Biden, vous voyez, il a fait toute sa vie, depuis plusieurs années de combat pour accéder à la présidence. Et à chaque fois, il a échoué. C'est la quatrième fois qu'il a pu être élu président des États-Unis. Et là, il est vieux. Il ne peut plus continuer à diriger ce grand pays. Il a pris conscience de cela. Il a démissionné. L'Amérique est au-delà de sa personne, il le reconnaît ainsi, c'est élégant de sa part.
D'accord. Voilà. Oui, Uriel.
Alors, on aurait pu avoir quelques minutes de plus sur ce sujet, ça serait intéressant. Vous savez, c'est un démocrate. C'est là la grandeur de la démocratie. Comme Didier l'a dit, il a su que ses forces ne lui permettront pas. Il a déjà su que son adversaire est en avance. Il va falloir adopter une autre stratégie. C'est pas en Afrique où on se retrouve au Cameroun avec quelqu'un qui s'en fout, ou en Côte d'Ivoire où on voit quelqu'un qui s'en fout. Citez-moi des exemples aussi.
Le mal aussi, là, c'est qu'il y a des gens qui supportent même d'ailleurs cette personne dont vous parlez. Ça dit, il y a des gens quand même qui disent non, lui, c'est notre candidat, donc c'est lui qui doit le faire.
Oui, c'est le grand mal. C'est justement le grand mal. Ici, c'est un démocrate. Il a fait preuve de la grandeur de la démocratie hein, aux États-Unis d'Amérique. Les républicains, ce n'est pas le moment d'applaudir ou de dire que nous avons de la victoire. Hein. C'est juste le contraire. Parce qu'ils avaient déjà les arguments pour battre Joe Biden. Maintenant que Joe Biden n'est plus candidat, il va falloir recréer d'autres arguments contre celui-là qui sera choisi candidat pour représenter les démocrates.
Jacques, on dirait que la démocratie a encore gagné aux États-Unis, c'est ça?
Vous savez, le système américain, c'est un système un peu compliqué. Vous savez, pour dire vrai, Biden a vu que ceux qui sont là pour pouvoir participer à la cagnotte pour ces élections, les gens avaient commencé déjà par se retirer. Et vous savez, aux États-Unis, quand on parle d'élection là, mais c'est pas 1 million, 2 millions, hein. c'est des affaires de milliards. Donc, au fait, c'est eux qui ont contraint aujourd'hui Biden à démissionner. Parce que, finalement, le monsieur a constaté que les gens commençaient pas à se retirer. Qu'est-ce qu'il va faire s'il n'a pas d'argent pour aller aux élections? Donc, il a dit, bon, il a vu tout ça, là, il s'est dit, mais le mieux, c'est d'abord de s'arrêter. Et vous voyez, on n'est même pas encore allé au Congrès, il dit non, que bon, lui supporte déjà...
Kamala Harris,
alors qu'ils ne sont pas encore allés au Congrès. Donc je crois qu'aujourd'hui, le jeu est ouvert aujourd'hui, avant et après le Congrès. Donc si c'est Kamala Harris, est-ce que vraiment les Américains sont prêts à accepter une femme?
Oui, justement, c'est là aussi la question.
Une femme noire, par exemple.
Voilà, une femme de couleur, comme eux-mêmes ils aiment le dire. Mmh. Alors, nous allons arrêter hein, notre débat ici nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne pour participer, même d'ailleurs à ce débat. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75.
Comment ça va?
Oui, ça va, chez vous.
Merci. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Canal FM?
Oui, Canal FM, bonjour.
Bonjour, je vous appelle depuis Hedjanaoui.
Pardon, c'est
Kodjo.
Monsieur Kodjo, depuis Hedjanaoui. Oui.
Excusez-moi, j'ai suivi tout de suite un journaliste au sujet du Parlement de la CEDEAO. Il disait que la manière dont l'autre, le député sénégalais est intervenu n'est pas la bonne. Et puis, moi, je voudrais pas épouser son idée, parce que chacun a sa façon de parler. Et puis nous tous, dans l'espace CEDEAO, où nous savons ce que font les chefs d'État là. On dit, non, tout le monde fait, nous disons tout le monde que c'est un syndicat de chefs d'État, que c'est des amis, et puis, tout le monde le sait. Faut pas le cacher. Si quelqu'un a le courage, le toupet de venir l'exposer, c'est pour qu'il trouve une solution. La dame là qui est descendue pour faire son théâtre là, on n'est pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, elle peut descendre et puis faire ça. Elle allait auprès du député, là, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle va le cogner. Nous avons vu dans d'autres parlements, ils font pire que ça. En France, les gens en font. On a vu des gens qui sont venus au point, ils ont jeté ils se sont cassés la tête et puis tout ça. Elle descend pour affronter le monsieur parce que le monsieur dit que ce qu'ils font n'est pas bon. Elle-même le sait. Donc, il y a un autre journaliste qui a dit que c'est une façon de se faire voir parce qu'ils sont redevables. Oui, parce que c'est des amis, c'est des copains, ils sont là, ils font du n'importe quoi. Pendant que la population souffre. Hein, on leur demande seulement de faire que les gens vivent mieux. C'est tout ce que nous leur demandons, que d'aller faire ce théâtre-là, là-bas. Il faut écouter ce que l'autre est en train de dire. On ne peut pas l'imposer comment il va le dire. Il dit quelque chose de sérieux, c'est d'écouter. La présidente a menacé, mais monsieur, votre manière de... Le monsieur s'est ravisé. Mais il continue de dire la même chose, c'est de l'écouter. Elle descendait pour aller faire quoi? Il faut qu'on arrête ces histoires-là, ces comédies-là, comme ça.
D'accord.
Les autres pays sont en train de se retirer. Ils ne réfléchissent pas à ça. Ils continuent dans leur théâtre-là, comme ça. Mais je ne sais pas jusqu'à quand.
Mais merci beaucoup, monsieur Kodjo, alors, pour votre intervention. Allô?
Oui. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, oui, c'est Pélé.
Oui, Pélé.
Ok, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Ok, je voulais seulement rappeler à M. Jacques Dacouti de rappeler parce qu'il a fait ce matin encore la répétition, c'est là de la pédagogie, de rappeler à M. le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui au Togo de faire tout possible pour clarifier tout, pour que de Saint-Cassin à Jean-Cassin, on assiste tout ce qui se passe au Parlement là-bas. Parce que nous ne serons plus dans l'obscurité à partir d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce que démontre M. Dissagna là-bas. Nous voulons voir clair. Parce que quand vous êtes des élus du peuple, il faut faire comprendre au peuple ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce que tu fais sans moi est contre moi. Ils ont fait, et ils disent qu'ils sont en transition, ou bien en transition d'une 4e République à la 5e République. Ils ne sont pas encore à la 5e République. Nous sommes en transition pour aller à la 5e République. Ça, c'est clair et net. Maintenant, nous voulons savoir tout ce qui se passe au Parlement. Parce que si on va là-bas, maintenant, on va dire que la salle est pleine. Nous ne pouvons pas arrêter. Donc, il faut que ça soit en transmission, en direct, à la télévision. Ça se passe partout, au Bénin, au Sénégal, partout. Donc, nous voulons que le président, M. Abedie, ait le courage d'aider la population à voir tout ce qui se passe là-bas.
Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Salut le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Bon, on va passer par le Parlement et puis revenir peut-être chez nous. Bon, elle, je pense que quand elle a vu comment la présidente du Parlement est... Il y a un député, vous ne mentionnez pas ça, un souclingué, qui lui menace qu'il va retirer Dissagna du Parlement. Il faut souligner ça. Celle-là, elle veut faire plus que les deux Togolais qui ne sont pas d'accord avec Dissagna. C'est ce qu'il faut souligner. Voilà ça. Mais elle a été seulement ridicule. Hein. Elle est très ridicule d'ailleurs. Tout comme Souklembe qui a menacé aussi Dissagna que il va faire une pétition pour qu'on l'enlève du Parlement. Mais ils n'ont qu'à savoir que ça, là-bas, ce n'est pas le Togo, hein. Ça, c'est la CEDEAO dont on parle. S'ils veulent amener les choses là-bas, ils vont nous mettre la honte. Ça ne va pas vraiment nous arranger ici. Mais oui, voilà.
D'accord.
Je vais aider Iriel. Il citait le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé, mais c'est le Togo, il faut citer premièrement.
Cameroun et la Côte d'Ivoire.
Ceux qui s'en foutent. C'est au Togo ici qu'on s'en fout. Et voilà.
D'accord. Basile, merci pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est M. Colani depuis Agoué.
Ah, M. Colani depuis Agoué. M. Colani, comment vous allez?
Je vous salue tous et puis je veux saluer mon frère Jacques Sakoutu dans ma langue. Hein.
D'accord. Non, et voilà, il s'est juste déplacé un peu.
Ah, ok, il n'y a pas de problème. D'abord, ce que je veux dire ce matin, nous avons le devoir, surtout nous, les médias, pour définir le rôle des députés. Un député est redevable à la population. Les populations, les Togolais, quand il y a d'accord à Mango, n'importe où, c'est le député du Togo, de la nation. Et quand ils vont au niveau de la CEDEAO, tous les députés de la CEDEAO, la communauté. Mais quand les Togolais, nos comportements, si on l'amène au niveau de la CEDEAO pour défendre nos partis politiques ou bien l'individu, qui n'est pas du chef de l'État, là vous faussez tout le débat. Personne ne veut à quelqu'un à part le peuple. Donc nous allons passer par votre chaîne d'abord pour dire merci aux Sénégalais et dire aux députés togolais, monsieur le Sénégalais, leur comportement ici, il ne faut pas qu'ils l'exposent à l'extérieur. Ça nous fait, ça nous met mal à l'aise ici.
Les députés togolais n'ont rien fait. Oui, monsieur Colani.
D'abord, il faut aussi présenter nos condoléances aux peuples togolais et aux forces armées togolaises pour ce qui s'est passé dans les sabbats. Et les encourager, que ce n'est pas facile. Au même moment, féliciter nos frères qui sont la diaspora, qui ont créé des mouvements pour la libération nationale. pour que les peuples togolais se retrouvent chez eux. C'est ce qui est très important pour moi et je vous dis merci et courage à tout le monde. Merci. Et nous voulons pour que le Togo vive.
D'accord, merci. C'est très important. D'accord, merci beaucoup, monsieur Colani, pour votre intervention. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien, c'est Johannes.
C'est Johannes, voilà. Allez-y.
Je veux principalement intervenir par rapport au dossier de du Major Colomb. Lorsque j'ai écouté l'édition du journal, je ne sais plus c'était quel jour sur Canal FM, là, je ne sais pas si c'était le vendredi.
Monsieur Robin, le vendredi.
Voilà. Sans l'information a été passée. Mais je vous assure que ce qui m'a étonné lorsque l'information du décès de ce monsieur était passée, c'est la manière dont il a été présenté. C'est-à-dire qu'on dirait un grand serviteur. Le Togo vient de perdre un grand serviteur. Comme si c'est quelqu'un qui va manquer au Togolais. Et à la fin, dit que Canal FM, Canal FM présente ses condoléances à la famille Bouloré. Bon, je vous assure que c'est quelque chose qui m'a un peu étonné quand même. Pas forcément simple.
Mais Johannes, oui. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?
Non, vous savez, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un dont, déjà, dans la présentation de la personne, mais on a carrément ignoré le fait que le nom de ce monsieur a été cité dans certains dossiers macabres de ce pays. Voilà. Mais je ne dis pas forcément qu'il faut peindre l'image de la personne en blanc. Comme il l'a dit, quand quelqu'un meurt, ce n'est pas le lieu de parler mal de la personne. Mais ça fait partie de l'information. C'est de l'autorité publique que le nom de ce monsieur a été cité publiquement. Mais je vous assure que, à chaud, peut-être la manière dont je le dis actuellement, vous n'allez pas peut-être comprendre. Mais à chaud, quand on écoutait l'édition de ce, comment ça a été présenté, c'est comme si un monsieur qui, un grand serviteur de l'État, il a juste fait du bien dans sa vie, tout ça là. Et bon, pour quelqu'un, on ne parle pas de quelqu'un qui a peut-être mal voulu.
Ok, merci, puisque vous en avez dit assez déjà. Merci beaucoup. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gadou.
Monsieur Gadou.
Oui, comment vous allez?
Bon, moi, je voudrais tout simplement féliciter notre député honorable Nimatou parce qu'elle a affiché une belle image à la CEDEAO. Mais par contre, son adjointe là, je ne sais pas si elle arrive à donner au moins le temps à son mari de boire une gorgée d'eau à la maison. Bon, maintenant pour Baden. On ne tue pas les musulmans gratuitement. Il a aidé les Israéliens à tuer les musulmans. Nous, on a prié sur le Coran. Où est ta chute? Merci, bonne journée.
Allez, bonne journée. Et merci pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame Essie.
Bonjour, Essie.
Madame Essie.
Vous avez parlé. Est-ce que je sais, non? Mais vous avez parlé de la même chose. Et puis, bon. Maintenant, est-ce qu'on est habilité à faire ça là, cette gymnastique de débat, de machin? Et puis on a l'impression que vous nous dites là-bas que le président est un bouge, c'est-à-dire il va pas, il va jamais bouger, hein? C'est ce que vous, parce qu'à chaque fois vous dites le président n'a qu'à changer cette personne. Et tout ça, mais lui là, il est un bouge ou pas? Je vais vous demander. Et puis vous êtes supplié au président, c'est-à-dire au gouvernement, quoi. En gros, au gouvernement. Tout ça en est avec le PND ou je sais pas quoi là, PND, comment on l'appelle, c'est ça non? La sécurité maritime, tout ça là, dépensier.
Madame Essie.
Pour que moi je sois pauvre.
Madame Essie.
Oui,
nous avons parlé aujourd'hui de la sécurité routière.
Et,
sécurité routière. Et aussi, nous sommes plus partis dans le Parlement de la CEDEAO et aussi
dans le Parlement de la CEDEAO. La dame Memonatou, la Constitution dit de travailler durant combien de temps pour passer la main? Elle est ministre, on l'a pas encore là-bas.
Madame Essie.
Le mandat de gouvernement n'est pas fini depuis. Hein, pour qu'on voit la même tête partout.
Madame Essie,
à vie, oui.
Madame Essie, elle vient d'être élue présidente du Parlement de la CEDEAO.
Elle, elle gouverne depuis longtemps, non, depuis 20, 30
non,
ans.
Non, c'est tout récemment, c'est tout récemment. Merci beaucoup,
mais
madame.
Tous les autres, là.
On va juste prendre un autre auditeur, et je pense que ce serait le dernier auditeur, 90 86 35 35. Allô?
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Oui, c'est Johannes qui revient.
Oui, Johannes.
C'est juste pour une petite clarification. Mm. Parce que j'aimerais que tu fasses que mes propos pètent amalgame. C'est juste pour dire, moi, selon moi, pour quelqu'un, il ne s'agit pas juste de quelqu'un qui, peut-être, on va accuser d'avoir mal gouverné ou tout ça là. On parle quand même de quelqu'un qui a été accusé d'avoir envoyé beaucoup d'autres citoyens au cimetière. Alors, lui, à son tour, à son décès, qu'on présente les condoléances à la famille éplorée.
Oui, mais Johannes,
je me mets à la place.
Oui, Johannes, je ne sais pas exactement ce que vous voulez qu'on dise. Johannes, mais Johannes.
Oui.
Je ne sais pas exactement ce que vous voulez qu'on dise.
Non,
concrètement,
oui.
Dites.
Pour préciser ma pensée, oui, j'aurais préféré qu'on présente simplement, étant donné que c'est un média, qu'on présente simplement l'information, mais dire que le média présente ses condoléances, c'est quelqu'un qui prête polémique.
Mais ouais, d'accord. Merci beaucoup. Merci Johannes pour votre intervention. Alors, cher confrère, je pense quand même que c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce jour, Jacques.
Non, Pascal, je crois que il faudrait que nos compatriotes comprennent quelque chose. Vous savez, nous ne sommes pas ici pour faire donner des points à qui que ce soit. Quand quelqu'un perd un parent, un proche, ça fait toujours mal. Hitler même, quand Hitler est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Les gens parlent toujours de Hitler. Hitler a également ses partisans. Vous ne pouvez pas refuser aux partisans d'Hitler de ne pas l'aimer ou de l'aimer. Donc, le Major Kouloum, il est décédé. C'est un compatriote. Je ne vois pas en quoi, quand on présente les condoléances, que ça fasse mal à certains. Non, c'est un être humain qui est parti. Qui fut-il, qu'il soit méchant ou bon? Nous ne sommes pas ici pour distribuer les cartes de ce qui est, celui qui est bon ou celui qui est mauvais. Vous savez, lorsque la mort frappe, elle frappe. Donc, je ne vois pas en quoi nos compatriotes vont se fâcher du fait qu'on a présenté les condoléances à la famille.
C'est Johannes qui s'est fâché.
Bon,
Uriel.
Sur le même sujet, je pense quand même qu'il ne faut pas que cet auditeur-là revienne de cette façon. Nous n'avons aucun pouvoir, aucun droit de faire le procès à quelqu'un ici, vivant ou mort, ce n'est pas notre rôle. Et surtout qu'une famille perd un être cher, la plus simple des choses, c'est de compatir. Et c'est ce que nous faisons. Bon, s'il connaît, s'il avait d'autres choses avec la personne décédée, ça n'engage que lui. Cela ne relève pas de notre métier. Nous, on ne fait que faire notre travail. Secondo, Madame Essi, j'aurais souhaité que pour la prochaine fois qu'elle nous suive avant d'intervenir. Parce qu'à chaque fois, ces derniers temps qu'elle appelle, elle ne suit rien. Elle ne suit rien complètement. Elle se perd complètement et elle raccroche. Non, c'est une émission très sérieuse. Nous sommes sur une radio de grande écoute.
Tout à fait.
On ne peut pas se prêter à la comédie. Ça, franchement, c'est une dame que j'admirais beaucoup, mais elle commence par prendre de l'écart par rapport à la norme. Je l'interpelle vivement.
Et d'accord. Votre note, alors, de fin d'émission, je reste avec vous, Uriel.
Oh, bon, je n'ai pas une note, mais j'attire toujours l'attention de l'autorité de faire plus d'efforts, de faire vraiment, vraiment d'efforts à revoir nos routes à Lomé.
D'accord. Jacques, votre note de fin d'émission?
Non, je crois que, Pascal, merci pour l'opportunité. Comme Uriel l'a dit, c'est vrai que nos propos ici, certains seront d'accord, certains ne seront pas d'accord. Je l'ai toujours dit, vous savez, les journalistes, c'est comme une femme. Elle a dit que certains vont voir peut-être le visage de la femme, et puis ils peuvent tomber amoureux de la femme. Certains peuvent voir les oreilles de la femme, bon, ils peuvent tomber amoureux de la femme. Donc on ne voit pas les choses de la même façon. Donc il faut que les gens nous acceptent. Lorsqu'on dit des choses, nous ne sommes pas ici, nous n'avons pas une connaissance infuse des choses. Mais ce que nous voyons, c'est ce que nous disons. Plaise aux uns aux autres d'accepter ce que nous disons et à chacun de faire tirer les leçons. Inviter le gouvernement, une fois encore Pascal, à plus d'efforts et d'ardeur sur la situation au nord, ce qui se passe actuellement avec nos FDS. Inviter également les populations que nous sommes, si vous êtes chrétiens, musulmans, prier effectivement pour nos FDS par rapport à la situation au nord.
Surtout la situation du terrorisme qui sévit au nord. Alors, Didier,
Oui, je crois fondamentalement que, vous voyez que ce que je disais, c'est le problème que nous avons, c'est que des gens ne veulent pas se départir de la culture, de la pensée unique. Les gens, derrière leur poste récepteur, veulent que des journalistes par prestidigitation ou par, je ne sais pas, télépathie, aille dans leur pensée et puiser pour venir dire ce qu'eux ils veulent. Naturellement, c'est pas, ça ne peut pas arriver. Chacun fait l'analyse de la situation et nous disons des choses, ça peut concorder avec ce que certains pensent, ça peut contredire ce que d'autres pensent. Donc naturellement, apprenons cela et s'ils prennent le temps de rentrer en ligne, qu'ils disent naturellement ce qu'ils pensent eux, je pense que ça va enrichir naturellement le débat. Après, moi également, nos condoléances à nos forces de défense et sécurité, pas seulement à eux, mais à tous les civils, enfin les familles des civils également qui trouvent des morts dans des attaques. On en parle moins ces derniers mois ou ces dernières années, mais c'est quand même une situation très préoccupante dans la région des savanes là-bas. Et que nos autorités également, je pense que peut-être qu'on dit que l'information, on en parle, ça va, qu'on fait la communication pour les groupes terroristes, mais je pense quand même qu'on a l'effet contraire. Parce qu'on n'en parle pas, des gens pensent qu'on a eu une meilleure situation, mais les informations laissent croire que ce n'est pas surtout le cas et que la situation s'empire. Donc il faut véritablement que les autorités quand même informent. La population a le minimum de droit à l'information, il faut qu'on fasse ça.
D'accord.
Et après, je n'ai pas de carton ni de note, je veux juste souhaiter un très joyeux anniversaire à notre ami qui n'est pas là aujourd'hui, Eli Goka, qui fête...
C'est son anniversaire.
Un anniversaire aujourd'hui, donc s'il est à l'écoute, partout où il se trouve. Et donc, joyeux anniversaire à Eli Goka.
Il a une bonne
route. Il fallait qu'il vienne, pourquoi il n'est pas venu.
Le Basito pour aller.
Il devait normalement être là.
Mais c'est surtout la route qu'il a empêché.
D'accord, merci beaucoup Didier, merci Uriel, merci Jacques. Et merci à vous tous d'être passés alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission et de contribuer surtout au débat citoyen avec vos réflexions. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis aussi, vous qui nous avez appelés. Merci à vous. Michel Tobiga a assuré la mise en onde lors de cette émission. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.